Radio Kapi. Oh, Kapi.
Il est 7h à Kinshasa, 8h à Kinyesiré, dans les Calais au sud Kivu. Sans plus tarder, voici la charpente de ce journal. Chan Algérie 2022. Les léopards locaux de la RDC affrontent cet après-midi les crânes de l'Ouganda à Naba, en Algérie, au stade du 19 mai 1956. C'est un match comptant pour la première journée de la phase de poule du groupe B. C'est désormais solennel, les exportations d'or de la RDC issues de l'exploitation artisanale dans le sud Kivu ont été lancées hier vendredi à Kinshasa. La société Primera Gold SA des Émirats Arabes Unis a présenté au chef de l'État un premier lot d'environ 30 kg d'or, équivalent à plus ou moins 5 millions de dollars. Nous recevons comme invité de ce journal le ministre provincial du commerce de la ville de Kinshasa. Osé Badibanga affirme que l'opération coup de poing menée par ce gouvernement provincial va se poursuivre jusqu'à ce que les vendeurs et vendeuses comprennent son bien fondé. Bienvenue à l'écoute de ce journal. Polydor Basunga est de l'autre côté de la vitrine. Devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Mesdames, messieurs, bonjour. Tout d'abord, cette information sportive, Chan Algérie 2022. Les léopards locaux de la RDC débutent la compétition ce samedi 14 janvier 2023. Ils vont affronter le crâne de l'Ouganda à Annaba, en Algérie, au stade du 19 mai 1956 à 17h. Un match comptant pour la première journée de la phase de poule du groupe B. Hier, les sélectionneurs des deux pays étaient en conférence de presse d'avant-match. Vanessa Kongolo nous met dans le bain de ce derby.
Ajouter une troisième étoile sur le maillot des léopards, c'est l'objectif principal selon Joyce Mampeko, capitaine des léopards.
C'est ma dernière chance tant qu'un joueur foot. Mon rôle est d'accompagner le groupe et surtout vraiment à montrer un bon exemple sur le terrain ou en dehors du terrain. Et surtout pour remporter cette coupe, ça c'est l'objectif principal de notre groupe.
Otis Ngoma, sélectionneur national des léopards, estime que ses poulains joueront ces matchs dans l'âme.
Je crois que ça va se jouer sur un état d'esprit conquérant. Nous, on joue aussi pour faire plaisir aux Congolais, faire plaisir à toute une nation et faire plaisir aux gens de l'Est. Donc, on aura ça dans l'esprit.
Pour sa part, Mulitin Skredojevic a du respect pour les léopards de la RDC, mais compte tout de même sur ses joueurs pour gagner ses matchs. RDC Ouganda, match à suivre sous les coups des 17h de Kinshasa, il sera 18h à l'est du pays.
Vanessa Kongolo sur Radio Kapi. Je le disais dans le sommaire, lancement hier vendredi à Kinshasa des exportations d'or de la RDC issues de l'exploitation artisanale dans le sud Kivu par la société Primera Gold SA des Émirats Arabes Unis. Un premier lot d'environ 30 kg d'or, équivalent à plus ou moins 5 millions de dollars, a été présenté au chef de l'État à la cité de l'Union africaine, bien avant les formalités d'usage. D'après le gouvernement et l'entreprise Primera Gold RDC SA, cette exportation vient mettre fin à une pratique illicite, minimaliste des recettes provenant du secteur aurifère. Billy Yvan Lutumba.
Production de seulement 5 jours contre 23 kilos en 2021, cette joint venture de droit congolais avec 45% de parts congolais et 55% pour Primera Gold DRC entend exporter au moins 15 tonnes d'or annuellement et couper ainsi court à toute contrebande. DG de Primera Gold DRC.
Déjà avec le système partenariat qu'on a mis en place avec le SAMAP, qui a ses rôles d'encadrer les artisanaux, au niveau de l'extraction, on s'est finalement capté jusqu'au niveau avec des tunnels. Le premier, c'est avec les coopératives et le deuxième avec les négociants.
Une option que les pays voisins de la RDC n'ont malheureusement pas considérée, regrette Félix Tshisekedi.
C'est exactement ce genre de partenariat que j'avais recherché avec nos voisins pour mettre fin à ce trafic et cette contrebande de nos minerais et pouvoir les faire profiter à nos populations respectives. Malheureusement, je n'ai pas été entendu de cette oreille. J'encourage donc la société Primera Gold RDC à poursuivre ses efforts dans la production d'or ainsi qu'à poursuivre son ascension pour devenir, pourquoi pas, un fleuron de l'économie congolaise et un modèle pour les autres entreprises du secteur minier.
Le chef de l'État encourage ainsi tous les acteurs d'exploitation des matières précieuses à privilégier de telles initiatives pour l'émergence de la RDC.
Billy Yvan Lutumba. Et puis le ministre de l'Industrie invite les investisseurs indiens de venir travailler en RDC pour appuyer les pays dans la mise en œuvre de son plan directeur d'industrialisation, chiffré à 58,4 milliards de dollars américains. Julien Paluku Kahongya a lancé cet appel du gouvernement congolais au cours de la conférence sur le développement des synergies sud, focalisée sur plusieurs domaines dont l'industrie, le commerce, la technologie, le tourisme et la santé. Cette conférence a été organisée hier vendredi par Vision Conférence par le ministère indien du commerce et de l'industrie. Alain Hirung pour les détails.
Ces hommes d'affaires indiens sont également appelés de venir s'installer dans les zones économiques spéciales pour bénéficier des avantages fiscaux, parafiscaux et douaniers qu'offrent celles-ci et d'appuyer l'État congolais dans l'exécution du projet panafricain de développement d'une chaîne de valeur régionale. Julien Paluku.
Nous sommes, comme l'a dit le président de la République, les pays solutions dans cette transition énergétique et écologique qui fait aujourd'hui l'actualité à travers le monde. Voilà pourquoi donc nous invitons tous ceux qui sont intéressés par la panoplie des projets tels que contenus dans le plan directeur d'industrialisation de la RDC de venir dans notre pays.
À l'issue de cette conférence, le ministre indien du Commerce et de l'Industrie a rassuré que son pays va consolider le partage de son expérience en développement avec les pays africains, signalant que le ministre congolais de l'Industrie était entouré du directeur de cabinet du ministre du Commerce extérieur, représentant le ministre Jean-Lucien Boussa, mais aussi des experts de son cabinet.
Alain Hirung sur Radio Okapi. Le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme note avec inquiétude la montée des discours incitatifs à la discrimination et à l'hostilité par les leaders politiques en RDC. Pour le BCN et UDH, cette rhétorique inflammatoire, répréhensible par la loi, est de nature à accentuer les sentiments d'exclusion, de discrimination et inciter les populations à l'hostilité et à la violence dans le contexte préélectoral. Plus de détails avec vous Rachel Kiesembangou.
Ces messages sont attentatoires à la dignité humaine et peuvent entraîner des conséquences néfastes sur la paix, la sécurité et la cohésion nationale, indiquent les bureaux. Les BCNUDH réitèrent son appel pressant aux leaders et membres des partis politiques, membres de la société civile, influenceurs et leaders communautaires et religieux à la retenue et à privilégier des discours respectueux de la liberté et de la dignité humaine. Il soutient l'engagement pris par les hautes autorités à prévenir les discours de haine dans la société congolaise. Il encourage l'ouverture systématique d'enquêtes sur ce type d'incidents et à traduire les auteurs, quel que soit leur rang, origine ou affiliation politique ou socio-professionnelle devant les institutions compétentes.
Merci Rachel Kiesembangou pour ce détail. Processus électoral en RDC, une délégation de l'Union européenne a échangé hier vendredi ici à Kinshasa avec les responsables du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication sur la liberté de la presse et surtout sur la lutte contre les discours de haine ainsi que la désinformation. L'Union européenne a rassuré sur sa volonté d'accompagner les médias et l'autorité de régulation dans l'exercice de leurs missions respectives, la période préélectorale étant assez délicate en République démocratique du Congo. On écoute tout à tour Mathilde Achouedine, chargée d'affaires de l'Union européenne en RDC, et Serge Ndjibou, rapporteur adjoint du CESAC.
Nous avons échangé sur le rôle important du CESAC, surtout pendant la période électorale, à la fois veiller à l'espace démocratique et la liberté de presse, et aussi lutter contre le discours d'haine et la désinformation. On a échangé sur une collaboration potentielle pour cette année liée aux élections. Pour l'Union européenne, c'est très important d'accompagner les médias et aussi l'autorité qui est censée justement de protéger l'espace démocratique et lutter contre le discours d'haine.
La délégation de l'Union européenne en RDC est venue pour établir un partenariat clair avec le CESAC et surtout en cette période ou cette année électorale. L'Union européenne voudrait bien renforcer les capacités opérationnelles du CESAC, mais aussi apporter un appui conséquent aux médias afin qu'ils puissent augmenter leur capacité opérationnelle en cette période électorale. Et cela passe aussi par le respect de la déontologie et aussi amener les médias à éviter les discours de haine, de discrimination, de violence.
Parlons santé à présent. Le coordonnateur provincial du programme élargi de vaccination, Pev Maniema, confirme que seuls 5% du personnel soignant s'est fait vacciner contre la COVID-19 au cours des deux phases de campagne contre cette pandémie. Parmi les causes à la base de ce faible pourcentage figurent notamment les fausses informations autour de ce vaccin qui a persuadé une importante partie de la population à ne pas se faire vacciner. Après avoir été sensibilisé hier vendredi à Kindu par la coordination du PEV Maniema sous le financement de l'OMS, plus d'une centaine de médecins se sont engagés à accompagner le processus de vaccination et ne plus décourager la population. On écoute à ce sujet Dr Charles Omesumbushako, président du conseil provincial de l'ordre des médecins du Maniema, au micro de Florence Kizalunga.
La réunion d'aujourd'hui avait pour but d'abord de sensibiliser les médecins. Voilà pourquoi nous sommes une centaine dans la salle pour la ville de Kindu. Et la même opération se passera dans toute la province. L'engagement, c'est d'abord pour ceux qui ne se sont pas fait vacciner jusqu'à ce jour de le faire. Le deuxième engagement, c'est cesser de véhiculer les infodémies, donc la désinformation. Tout ce que nous ramassons sur WhatsApp, même si ça n'a pas tellement une vraie valeur probante scientifiquement, on a l'impression que les gens ont la facilité de véhiculer ce genre d'informations, les partageant dans tous les groupes. Et donc, aujourd'hui, l'engagement qui est là, nous, comme ordre des médecins, nous allons surveiller le forum des médecins pour voir aussi comment les médecins se comportent par rapport à la gestion des infodémies. Les médecins se sont engagés à continuer à sensibiliser la population, leurs proches, à sensibiliser les malades et à ne plus jamais les décourager parce qu'il y en a qui les ont découragés pour la vaccination. Mais aujourd'hui, les gens se sont engagés.
Au Nord Kivu, le contingent tanzanien de la MONUSCO a remis hier vendredi un hangar moderne au centre de santé de référence de Mavivi dans la zone de santé d'Oicha. Cette infrastructure va servir de réfectoire aux malades et visiteurs de cette structure sanitaire qui dessert une population estimée à plus de 22 000 personnes. Les autorités sanitaires et les malades qui sont les bénéficiaires directs se disent satisfaits. Reportage de Sadiki Aboubakar.
Cette structure sanitaire est la plus importante dans cette zone en proie à l'activisme des rebelles de l'ADEF. Elle a même déjà été victime d'une incursion de ces derniers il y a 3 ans. Un infirmier avait alors été tué et plusieurs autres dégâts enregistrés. Cette œuvre réalisée par le contingent tanzanien de la MONUSCO vient répondre aux besoins de la communauté des Mavivi, indique Kissou Kanyambara Janvier, l'infirmier titulaire.
Nous ressentons un sentiment de joie parce que nous avons répondu à travers cet ouvrage à un besoin bien ressenti par la communauté au niveau du centre de santé. Ce hangar va servir de réfectoire pour les malades au niveau de l'hôpital et pour les femmes accouchées au niveau de la maternité.
Des femmes malades, bénéficiaires directes de cet ouvrage, n'ont pas caché leur satisfaction. Témoignage. Ça va beaucoup nous aider. Nous allons commencer à manger des dons. Ça nous protégera contre les intempéries. Nous sommes très satisfaits. Nous venons donc de trouver une bonne salle de repos. Il y a quelques jours, le même contingent a fait un don de médicaments à cette structure, la deuxième du genre en l'espace de quelques mois. L'autorité sanitaire de la place affirme que la salle des morts reste le besoin le plus urgent et prioritaire pour ces centres de santé. Beni, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Nord Kivu encore, conflit du pouvoir coutumier dans le groupement de Munigi en territoire de Niragongo. Les députés nationaux Muteule Moro demandent l'implication du ministre de l'Intérieur. Selon lui, la sentence du 5 janvier dernier de la Commission consultative provinciale de règlement des conflits coutumiers a reconnu le droit au trône à Mutumishi Kifende au détriment d'Olivier Kakoti n'est pas exécutoire au stade actuel. D'après lui, l'arrêté du 11 mars 2017 instituant la dite commission dispose qu'en cas d'un recours contre une sentence par la partie lésée, il revient au ministre de trancher. Les députés craignent que ce conflit accroisse la tension dans cette zone de Niragongo, affectée déjà négativement par les menaces de la rébellion du M23. Muteule Moro est au téléphone de Bernard Denyangui.
Le délai de recours contre une sentence de la CCRCC est de 30 jours. La sentence n'est susceptible d'exécution forcée qu'en vertu d'une ordonnance du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle a été rendue. Mais les informations à notre possession font état d'un forcing que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a entériné par arrêté le rapport de la commission CRCC qui siégeait autour de la question des conflits de pouvoir coutumiers pour le groupement démonigui, mais en vertu de cet article-là, lorsque l'un des plaignants a interjeté appel, cette décision-là ne peut plus être exécutée. Voilà pourquoi nous demandons au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur de s'impliquer dans ce dossier parce que c'est un dossier sensible et qu'il instruise à la province de ne pas interférer jusqu'à ce que lui se prononce.
Nord Kivu toujours, une accalmie relative a été signalée sur toutes les lignes de front hier vendredi dans la matinée, sur les cas notamment dans la région de Bouito, après les violents affrontements jeudi dernier entre les M23 et les milices locales à Moulimbi, Moudougoudou et Bouiza en groupement Bichoucha. Cependant, ces habitants de Bouito disent traverser un calvaire sous les jougs des rebelles, déplorent un notable de la région. Ces rebelles du M23 auraient opéré un pillage systématique des récoltes et emporté une grande quantité hier après ces combats. À cela s'ajoutent des menaces permanentes proférées par le M23 aux habitants. Le fonctionnaire délégué adjoint du gouverneur à Bambo explique que plus les milices multiplient les embuscades contre les rebelles, ces derniers s'en prennent à la population qu'elle accuse de cacher les maïmaï. Isaac Kibira Bendera demande l'implication des instances régionales pour que cessent les exactions du M23 contre la population dans les zones occupées.
Actualité internationale.
Nicolas Aissom, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, a tenu sa première conférence de presse de l'année hier vendredi. Il a insisté sur la nécessité de mettre en place l'accord de paix rapidement. Et puis les forces russes ont pris la ville de Soledar dans l'est de l'Ukraine, a déclaré hier vendredi le ministère russe de la Défense. Le ministère ajoute que la prise de la ville de Soledar par la Russie permettrait à ses troupes de contenir les forces ukrainiennes dans la ville voisine plus grande de Bakhmout que les Russes appellent Artemovsk.
L'invité.
Nous recevons comme invité de ce journal le ministre provincial du commerce de la ville de Kinshasa. Osei Badibanga affirme que l'opération coup de poing menée par ce gouvernement provincial va se poursuivre jusqu'à ce que les vendeurs et vendeuses comprennent son bien fondé. Osei Badibanga répond aux questions d'Innocent Fazili.
Monsieur le ministre Osei Badibanga, bonjour.
Bonjour, monsieur Innocent.
L'opération coup de poing a ciblé les commerçants qui font entrer quelque chose dans la caisse de l'hôtel de ville de Kinshasa. Ne craignez-vous pas que cela soit une sorte de manque à gagner pour la caisse de la province?
L'opération coup de poing vise les commerçants qui vendent dans des marchés pirates. Nous visons aussi les terrasses qui sont placées tout au long de route. Nous allons dire que ça ne va pas impacter sur l'économie de la ville. D'abord, ce sont des marchés pirates. La majorité d'entre eux ne payent même pas de taxes. En tout cas, c'est l'objectif du gouvernement provincial.
En tant que ministre provincial du commerce de Kinshasa, quelles sont les mesures mises en place pour pérenniser cette action?
Ce qu'il faut prévoir est simple. Donc, c'est que ce travail que nous sommes en train de faire devienne un travail de routine. C'est-à-dire, à tout moment, quand il y a la présence, parce que nous disons que nos mamans là qui vendent sur les artères publiques, ce n'est pas qu'ils manquent les endroits où étaler leurs marchandises. Non. Les endroits existent. Voyez-vous, les endroits existent, mais sauf qu'ils ne veulent pas. Donc, ça sera vraiment un travail de routine. Je vois que son Excellence Monsieur le Gouverneur ainsi que le Vice-Gouverneur, et tout le gouvernement, nous sommes décidés d'être à tout moment sur terrain pour, en tout cas, pérenniser cette action-là. Nous serons toujours là avec l'accompagnement, bien entendu, du Commissaire Général de la ville de Kinshasa. Donc, si le marché de la liberté peut être légèrement incapable de prendre tous ces gens-là, il faut un petit marché quelque part là, donc à l'intérieur vers Kimbanteke là, il y a des marchés. Ce qu'il faut faire, c'est nous devons faire un projet à moyen, court et long terme. Dans quel sens? Vous voyez, le projet à long terme. Il faut encore créer d'autres routes à l'intérieur pour permettre à ces mamans là de vendre aussi de l'autre côté là, car les véhicules vont commencer à passer. Mais nous devons savoir que le marché de la liberté est là. Nos mamans peuvent aller au marché de la liberté, vendre là-bas si nous avons besoin de quelque chose. Si je ne vois pas une maman sur la grande route, j'entrerai au marché de la liberté pour acheter. Je viendrai, les clients vont venir vers là pour acheter. Nous pensons qu'on doit conseiller à nos mamans de sauvegarder aussi leur vie, parce que c'est vraiment un grand danger de vendre tout au long de grandes artères.
Que faites-vous pour encadrer les petits commerçants pour qu'ils se sentent à l'aise là où ils seront délocalisés d'ici là?
Voilà, nous vous informons déjà, le fait pourrait de vendre dans des artères principaux. Cela ne veut pas dire qu'il manque les endroits où étaler leur histoire. Je prends l'exemple du marché de la libération sur 24 novembre, communément appelé Wenza Selembao. Là-bas, quand vous arrivez, vous allez vous rendre compte que à l'intérieur du marché, il n'y a même pas de vendeurs qui étalent leurs affaires. Et tout le monde préfère venir étaler sur les artères principaux sous prétexte que voilà, les clients se limitent dehors et les clients n'entrent pas. À l'intérieur de tous ces marchés-là, il y a les étalages vides même qu'on n'utilise pas.
Un petit mot sur les coûts de l'opération coup de poing. Ça vous a coûté combien? Vous pensez que ça va coûter combien jusqu'à la fin de cette opération?
Voilà, le coût de l'opération coup de poing, ça a coûté ce que ça a coûté. Coûté quelque chose. Donc, nous sommes en train de nous démener pour réunir tous ces moyens-là qu'on réussisse notre opération. Voilà.
Depuis un temps, les prix des biens de première nécessité à Kinshasa ont vraiment galopé. Cela est dû à quoi, monsieur le ministre?
Il y a un problème. Vous savez, pour que le dollar soit stable dans notre pays, il faut que nous puissions produire, que nous puissions exporter. Ce qui fait que quand le dollar devient rare, ça augmente. Et ça influence sur le prix des biens. Donc, nous devons faire un effort pour, en tout cas, produire pour nous permettre de garder cet équilibre-là.
Monsieur le ministre Osei Badibanga, merci.
Merci pour Radio Okapi.
C'était l'invité de ce journal, le ministre provincial du commerce de la ville de Kinshasa, Osei Badibanga, répondait aux questions d'Innocent Fazili. Fin de ce journal qui a été coordonné et supervisé en même temps par Pelé Kipela Mondo. Polydor Basunga a assuré la technique. Avec toute l'équipe, on vous retrouve tout à l'heure à 8h de Kinshasa pour la deuxième grande édition matinale. Dans l'entretemps, merci de continuer à réécouter ce journal sur toutes les plateformes digitales de Radio Okapi.